La Bonne Graine, un podcast entièrement réalisé à la main. Bonjour, bienvenue sur le podcast de La Bonne Graine, l'école d'ameublement de Paris. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Catherine Redelsperger.
Bonjour à tout le monde.
Alors Catherine, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours, ton CV?
Oui. Alors, comment je vais m'y prendre? Alors, pourquoi j'ai cette question-là? C'est que j'ai un profil multifacette. Et du coup, quand on me pose la question « comment te présenter ?», j'ai toujours une question qui est « comment adapter, en fait ?»
Quelle Catherine je présente?
Quelle Catherine je présente, en fonction aussi du sujet et des personnes qui vont écouter, en l'occurrence ce podcast. Donc, je vais faire des choix. Je vais faire un premier choix en commençant par ce que je fais aujourd'hui. Et après, dire comment c'est dans mon parcours, c'est construit ce que je fais aujourd'hui.
Parfait.
Et par rapport à ce que je fais aujourd'hui, j'ai une position multiple dans le monde de l'entreprise, puisque je suis à la fois coach, facilitatrice, consultante, écrivaine de science-fiction et formatrice. Et ces différentes places ont des couleurs différentes et une action différente. Et aujourd'hui, je vais avoir un focus sur la place de formateur et sur la position de formateur et sur la pédagogie pour adultes. Mais ça veut dire que tout est nourri dans ce que je vais dire par rapport à ce que je fais par ailleurs. Parce que c'est évidemment perméable. Et donc, je suis une formatrice nourrie par le reste. Donc, par rapport à mon parcours et ce qui m'amène à avoir toutes ces cartes aujourd'hui en main, j'ai une formation universitaire en sciences humaines extrêmement multiple, parce que j'ai touché à la fois l'anthropologie, l'ethnologie, l'histoire, les langues anciennes. Et cette culture multiple en sciences humaines a eu une espèce de focus en philosophie sur la question d'interprétation du monde et comment en fait nous sommes reliés au monde et le monde nous façonne en phénoménologie. Et ça me donne aussi cette spécificité de toujours m'intéresser à l'interaction, ce qui se passe dans l'interaction et de ne pas séparer les choses. Et donc par rapport à la pédagogie et la formation, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le lien et dans l'interaction. Et dans des contextes pour situer les choses. Et ensuite, j'ai fait un troisième cycle en sciences de l'éducation, où je me suis beaucoup intéressée à l'orthopraxie et l'orthodoxie. Donc, quand je parle d'orthodoxie, c'est l'orthodoxie du langage et comment se construit dans l'apprentissage avec les groupes quelque chose qui est de l'ordre de la communauté, qui facilite l'apprentissage. Et sur la question de l'orthopraxie, c'est les pratiques en fait qui se norment. Et comment on travaille aussi sur la tradition et l'innovation, qui est pour moi un enjeu toujours très important dans les questions de transmission et de formation. Ensuite, je me suis intéressée pour m'inscrire dans le monde économique à la gestion d'entreprise. Et je me suis mise à mon compte très très rapidement. Donc j'ai un profil d'entrepreneur. J'ai créé plusieurs entreprises, certaines ont vécu des échecs. Et qui fait partie aussi pour moi de l'apprentissage, qui est de pouvoir parler des échecs et transmettre aussi les échecs pour pouvoir aussi démobiliser dans la tête tous les petits vélos de l'être parfait que nous ne sommes pas. Pour pouvoir à la fois transmettre et accueillir la transmission. Voilà ce que je peux dire en lien avec la formation.
Et c'est vrai que c'est très important de parler aussi bien des réussites et de ce qui fonctionne que de ce qui n'a pas marché. Et sûr qu'un profil comme le tien a forcément toute sa résonance à La Bonne Graine. Quand on parle de transmission d'innovation, ça fait partie des deux mots-clés de description de l'école, de préserver les savoirs traditionnels tout en les faisant entrer dans le monde moderne avec de l'innovation et à travers un jeune public. Donc une rencontre qui fait sens. Alors pour parler un peu de pédagogie aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu quels sont les grands principes, les grandes familles de pédagogie ?
Alors déjà, je vais dissocier une chose importante, c'est qu'il y a la pédagogie pour les enfants et la pédagogie pour les adultes, qui longtemps ont, enfin c'est quelque chose qui n'était pas pensé en fait, la pédagogie pour les adultes. On pensait que simplement transmettre de la connaissance pure était suffisante pour les adultes. Et à mes yeux, c'est les questions qui se sont posées dans les pédagogies alternatives pour les enfants qui sont aussi venus stimuler la pédagogie pour les adultes. Et c'est, y a un enjeu de verticalité et d'horizontalité qui est super importante à mes yeux. C'est qu'il y a des visions verticales de l'enseignement, qu'il y a un sachant qui est en position haute et qui transmet. Et il y a des visions pédagogiques de l'horizontalité, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, pour les jeunes, et qui est de se poser la question des conditions à réunir pour le meilleur apprentissage possible. Et quand on réfléchit à des conditions d'apprentissage, se pose immédiatement la question de ce qu'on peut apprendre en groupe avec des pairs PAIR et ce qui est à apprendre de manière verticale. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'agilité entre plusieurs formes d'apprentissage. Donc pour aller plus loin dans ta question par rapport à la typologie, il y a, on s'intéresse dans ce cas-là d'abord avant tout à l'apprenant plutôt qu'à l'enseignant. Et on se décentre. Et l'apprenant peut avoir une facilité à apprendre par mimétisme. C'est parce que tous gamins, en fait, déjà, on apprend des choses par mimétisme, rien que bébé dans ce qu'on apprend avec la mère. Et ce mimétisme peut être très fort chez certains adultes qui vont avoir besoin d'une liberté d'apprentissage en reproduisant quelque chose, en observant et en le refaisant. Parfois, en ne comprenant pas exactement dans le moindre détail tout ce qui est à apprendre, tous les éléments, du pourquoi, du comment, mais par mimétisme. Il y a aussi des formes d'apprentissage qui sont liées à la démonstration. Donc, j'ai une démonstration extrêmement analytique qui est une démonstration avec la connaissance associée. Et où la personne va apprendre de cette manière-là. Je peux, par analogie, ça parlera à tout le monde, c'est comment on apprend les langues vivantes. Certaines personnes vont avoir besoin d'apprendre la grammaire pour avoir les points de repère pour apprendre la langue, et d'autres vont apprendre en étant immergés en Angleterre et en se dépatouillant dans quelque chose de pratique. Donc il y a la question aussi de la forme de découverte et de sensibilisation qui est en jeu. Et dans les métiers qui sont appris à la bonne graine, la question de l'agilité entre toutes les formes d'apprentissage est capitale parce qu'il y a besoin à la fois de connaissances pures, il y a besoin d'expérience qui va être traduite en connaissances, mais il y a aussi des gestes, et des gestes qui nécessitent du mimétisme, de la reproduction, mais quand même des enjeux de sécurité pour certains des métiers, parce qu'on peut se blesser gravement. Il y a en plus besoin d'un cadre extrêmement rigoureux dans certains cas, et il y a dans certains cas, la tradition nécessite un ordonnancement et une reproduction des gestes extrêmement précise. Donc il y a dans la construction pédagogique par rapport aux besoins de l'apprenant et le type d'apprentissage nécessaire, la préparation de celui qui transmet, le fait de jouer sur énormément de choses, y compris le collectif, le fait dans certains cas de pouvoir transmettre à partir des pairs.
D'accord, oui.
PAIR.
Oui, c'est vrai que le groupe est très important aussi bien que l'individu qui sera au-dessus, le pédagogue. Le groupe est un apport très important. On a un public qui est particulier à l'école parce qu'on a l'apprentissage, c'est entre 16 et 30 ans. Mais dans les faits, la moyenne d'âge est plutôt de 23-24 à l'entrée à l'école. Est-ce que l'évolution en âge de ce public, qui du coup sont des jeunes adultes, ça implique forcément un changement dans la pédagogie ?
Alors, dans ce que j'observe dans le monde de l'entreprise, je travaille donc beaucoup dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans des associations qui sont engagées sur les sujets écologiques, sur la transformation de la société. ça m'amène à travailler avec des gens qui sont en contrat de qualification, d'apprentissage et avec aussi leurs managers et les directions des ressources humaines pour aménager des conditions de réussite et aussi de transformation des attitudes managériales. Mmh. Et pas oublier que les managers sont des formateurs la plupart du temps, oui, dans les métiers techniques. Mmh. Et il y a cet enjeu de formation et d'intégration, mmh, dans les entreprises. Et ce que j'observe, c'est que par rapport à cet âge-là, donc c'est exactement les contrats d'apprentissage, hein, c'est, que je côtoie aussi, il y a une question de sens qui est absolument capitale. C'est-à-dire que si les jeunes adultes ne comprennent pas le sens de ce qu'on leur demande, ils ont l'impression qu'on les met dans une situation d'obéissance.
Oui.
Et ça leur est complètement insupportable. Mm. Qu'ils n'ont pas l'impression d'être pris au sérieux, de ne pas être des adultes et pas être pris dans leur intelligence.
Oui.
Donc cet enjeu du sens est, à mes yeux, extrêmement fort à prendre en compte. Et parfois, pour certains formateurs, ce n'est pas évident du tout, mm, d'aller jusqu'au point de sens dont ont besoin ces jeunes adultes. Et il peut y avoir aussi des... Alors ça en fait, tu me diras ce que vous vivez en fait par rapport à ça. Mais j'observe aussi parfois par rapport à la tradition, mmh, des formes de rejet de la tradition, comme si le monde commençait avec eux.
Oui.
Et qu'ils étaient à l'origine du monde, là maintenant. Oui, mais les règles, elles peuvent être réinventées. Une difficulté d'accepter que l'innovation se base sur la tradition.
Oui, que l'un n'empêche pas l'autre, deux fonctionnent. Oh, non.
Ensemble. Mais que du coup, il y a d'abord à apprendre les règles pour pouvoir innover par rapport aux règles. Parce qu'une innovation sans la tradition, eh ben, c'est complètement, ça devient complètement autre chose. Et là, il y a aussi un appui d'observation scientifique sur l'innovation. Donc, il y a un certain nombre d'universitaires, hein, qui travaillent sur l'innovation et qui se sont posés la question de la tradition. Et qui observent que... Là, je parle du monde de l'entreprise, s'il n'y a pas des gardiens du savoir-faire et des gens qui captent la tradition et le patrimoine, mmh, en capitalisant sur la connaissance existante, il y a une très grande difficulté à aller vers de l'innovation.
Et est-ce que ce rejet de la règle établie, de la tradition, mmh, n'est pas du coup un héritage finalement de ce mécanisme peut-être auquel on s'est parfois heurté d'apprentissage par la règle empirique, justement, ce rejet de « oui, bah, c'est comme ça », et on va pas expliquer la finalité, justement, que tu venais de dire. Hein. Effectivement, si on n'explique pas pourquoi on fait ça, si tu ne m'expliques pas, toi, en tant que prof, pourquoi je dois apprendre ça, c'est que peut-être tu estimes que je ne suis pas capable de le comprendre, et effectivement, du coup, ça englobe la tradition, malheureusement, alors que c'est juste un problème de mise en forme de la pédagogie, mmh, de la règle.
Ça me permet un rebond, ce que tu viens de reformuler. C'est que dans les formes pédagogiques, tu me posais la question des typologies, il y a un pan que je n'ai pas abordé et qui est un pan qui s'est développé aussi école primaire, alors surtout l'école primaire, ça collège et ça commence aussi à être présent. Parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire de la pédagogie qu'ont vécu à l'école ces, mmh, jeunes adultes. Et sous l'influence du digital, la question de l'autonomie de l'apprenant a été accélérée. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les profs, donc de manière caricaturale, les enseignants sont en concurrence avec Wikipédia,
oui,
et donc cherchent à développer la capacité de recherche et d'analyse des élèves qui vont, eux, rechercher des informations. Et on va développer, en fait, des compétences d'épistémologie, oui, qui est une capacité à comprendre... d'où vient l'information, à quoi sert l'information, et ça permet aussi de détecter les fake news, etc.
Oui,
de toute une prise de recul qui est en amont de la production de l'information et de la connaissance. C'est comment elle est produite, en fait, cette, oui, connaissance. Mais ça développe, hein, c'est souvent des travaux qui sont faits aussi en groupe, ça développe chez ces jeunes, hein, qui deviennent des jeunes adultes, des points de repère pédagogiques qui ne sont pas les points de repère pédagogiques qui sont uniquement descendants.
Oui.
Ils travaillent en groupe, ils travaillent avec de la recherche, ils ont beaucoup d'autonomie,
oui,
ils cherchent même.
Oui, okay. C'est complètement différent.
C'est complètement
d'avoir
différent.
Juste une personne qui sait et qui donne l'info et qui est la seule
Exactement.
Source possible de l'info.
Tout à fait. Et dans les pédagogies, donc si on prend même donc le champ universitaire, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec l'université Lakato, avec le recteur Pierre Giorgini, qui a expérimenté des pédagogies alternatives, comme la pédagogie renversée, où c'est l'apprenant qui donne le cours au prof. C'est extrêmement apprenant pour l'enseignant. Et pour, les élèves, parce que c'est le fil toujours, ils se mettent en situation de recherche. Il y a un challenge, c'est qu'ils essayent de coller le prof, de le coincer, et c'est eux qui préparent le cours. Donc, il y a aussi d'autres formes de pédagogie intéressantes qui sont les voyages apprenants. C'est le fait d'aller sur le terrain, donc de voyager, de préparer le voyage par rapport à un certain nombre de questions, d'aller sur le terrain et revenir avec une récolte qui va être analysée, etc. Alors, je ne sais pas si l'école, la bonne pratique des voyages apprenants sur le terrain, qui peut être... Donc, les apprenants sont sur le terrain, parce qu'ils sont, ils sont en alternance. Mais ça peut être aussi intéressant à un moment d'imaginer qu'un collectif de 6 personnes vienne sur le lieu d'un alternant et après sur un autre lieu pour avoir des visions
s'enrichir des
pratiques
de l'autre.
Donc, ces méthodes, par rapport à des apprenants qui ont 23 ans, il ne faut pas oublier d'où ils viennent.
Oui.
Dans les formes d'apprentissage, ils viennent dans des formes d'apprentissage beaucoup plus ouvertes que ce qui existait par le passé dans l'éducation nationale.
Et que nous, entre guillemets, on a pu vivre parfois quand on était nous-mêmes élèves au primaire et au collège.
Exactement. Et ça, c'est à intégrer dans la façon aussi de stimuler l'apprentissage chez les apprenants de l'école qui ont ce vécu-là.
Ce vécu-là, oui, ce parcours-là et qui ont besoin aussi de ce temps à l'école pour acquérir un maximum de connaissances et de prendre l'aisance dans ces savoirs.
Oui.
Est-ce que, du coup, apprendre un geste ou apprendre une date en histoire, une connaissance factuelle, c'est la même chose ?
Alors, pour moi, non. l'apprentissage, il y a l'apprentissage de la connaissance et il y a l'apprentissage du geste qui nécessite une incarnation complètement différente parce que ça se passe dans le corps et qui, du coup, est très expérientiel. Mais il se pose la question du pont entre la connaissance et l'expérience. Et je ne sais pas comment l'école, en fait, fait le pont entre la connaissance et l'expérience. Du coup, comment les enseignants qui transmettent, par exemple, de l'histoire, font le pont entre les gestes. Et comment les enseignants qui apprennent les gestes illustrent et font des ponts avec la connaissance. Que ça, c'est un vrai... c'est un enjeu qui va aider l'apprenant. Alors, on peut aussi renverser les choses et veiller à poser des questions en cours quand on est du côté de la connaissance.
Comment vous faites ça, par exemple.
Et de faire tout le temps les ponts entre les deux sphères. Parce que sinon, on a un risque, c'est la coupure entre la tête et les mains.
Oui. Que ça devienne
hermétique. Et que ça devienne hermétique, exactement. Alors qu'en fait, les gens qui sont fluides pour faire le lien entre la connaissance et le geste, c'est ceux qui auront, à mes yeux, le plus de capacité d'innovation.
Oui.
Et c'est ceux qui vont développer le plus loin leur talent, en fait.
Oui. Qui vont explorer tout leur potentiel.
Oui.
C'est vrai que ce lien, on essaye de le faire aussi, déjà parce que dans les formateurs et formatrices qu'on a dans les ateliers et dans les salles de classe, de dessin, d'histoire, de technologie, ce sont des personnes qui sont des métiers. Et c'est vrai que ce lien se fait beaucoup par le matériau, les échantillons matériaux, le côté sensoriel d'être en contact avec la matière, des échantillons de bois, de tissu, de voir que ça soit incarné, pas juste une photo ou un support écrit. Et aussi, je pense que ce pont se fait énormément par le dessin. Le dessin qui est en plus l'origine vraiment de l'école, ce cours de dessin, fait qu'on passe de... J'ai étudié des exemples de ce qui se faisait traditionnellement en histoire. Je vois ce de ton hérite en termes de patrimoine. Je vais le retranscrire techniquement par le dessin technique pour comprendre comment ça fonctionne et comment je pourrais le fabriquer. Et je vais me réapproprier ces codes-là sur un projet d'art appliqué avec de la recherche esthétique, en s'appropriant les matières que j'aime, les formes que j'aime, les références qui me parlent le plus, pour du coup que cette vision, cet imaginaire que j'ai, prenne forme ne serait-ce que sur le papier. Et je pense qu'effectivement, même si l'art appliqué, le dessin peut faire un peu peur, ou je sais que ça demande du travail, donc il y a parfois un peu des réticences, parce qu'il y a un enjeu aussi, hein, puisque comme on met une partie de soi dans le projet, parce que c'est son idée, c'est pas forcément agréable de se dire « Ah ben mon idée, elle vaut 12, parce que c'est pas bien dessiné ». C'est déjà pas la personne qui vaut 12, c'est la façon dont c'est dessiné, parce qu'il y a des techniques et il y a des qualités de lecture aussi. Mais c'est vrai que c'est très important pour justement faire ce lien entre le geste d'atelier, qui est pratiqué, répété, et cette connaissance un peu plus empirique peut-être de l'histoire ou de la technologie. Et le dessin, je pense, et l'histoire aussi forcément, hein, de faire le lien entre l'histoire et l'atelier, de dire bah, ce siège que vous êtes en train de faire à l'atelier, les formes elles viennent de Louis XVI, parce que sous Louis XVI on avait ce retour à l'antique par exemple, ça donne du sens aussi à ce qu'on fait. Se pose aussi la question de la légitimité dans la transmission. On a dans l'équipe des profs qui sont très jeunes, des formateurs qui sont très jeunes, qui n'ont pas forcément une énorme carrière dans les ateliers avant. C'est le cas aussi, hein, pour les maîtres d'apprentissage qui sont des formateurs dans les entreprises, qui sont parfois très jeunes. Et moi-même, par exemple, apprenti, j'avais à ma charge une apprentie plus jeune dans le métier. Comment on fait dans ces cas-là pour se sentir légitime ? À partir de quel moment une information qu'on a assimilée, acquise, apprise devient la nôtre et on est légitime pour la transmettre ?
Alors déjà sur le mot transmettre, en fait, transmettre c'est vraiment, c'est passer quelque chose à quelqu'un. Et ce passage-là, il est possible à plusieurs degrés en fait. Parce que dans l'imaginaire, on peut avoir l'imaginaire du vieux sage qui transmet un savoir immense, etc. Mmh. Mais sur une échelle de 1 à 10, on peut transmettre déjà à 2.
Oui.
Du coup, la question, c'est être à la hauteur de l'ambition que l'on se donne et la clarté de la place que l'on a par rapport à l'autre. Oui. On peut avoir, même dans certains types, dans certaines formations, des formes de tutorat qui fait partie, de tutorat entre élèves. Il y a des élèves qui sont un peu plus avancés et qui font déjà du tutorat pour des élèves qui viennent d'arriver, plus novices. Oui. Donc c'est des questions de pas avoir un imaginaire délirant. c'est on passe quelque chose quand on transmet. Donc la légitimité, elle est possible avec l'honnêteté, la transparence. Mmh. J'ai ça comme connaissance, comme prérequis. Je peux transmettre ça, mais au-delà de ça, c'est connaître les limites en fait.
Oui. C'est une question de frontières et de barrières et de transparence.
De transparence et d'explicitation déjà pour soi. Mmh. Et puis après, d'être à la bonne place. Mmh. C'est une école de la bonne graine, mais c'est aussi les bonnes places.
C'est sûr.
Pour chacun. Et il est vrai que sur la question de la légitimité, quand on est jeune, on a plus de questions de légitimité parce qu'on se les pose par rapport à des questions de confiance en soi et d'oser faire les choses. Mais de toute façon, les longueurs d'avance sont là. Après, c'est la question de la qualité de l'appropriation. Et dans certains cas, on peut être... je pense que c'est intéressant de poser la question de comprendre et s'approprier. Mm-hmm. Que si ça reste intellectuel et que ce n'est pas rentré dans le corps et que ce n'est pas incarné, ça pose un problème. Ce n'est pas jouable, en fait. Parce que l'autre le sent.
Oui.
Que c'est resté au niveau du cortex. Et même la connaissance pure nécessite de l'incarnation. Mm-hmm. C'est avec son corps qu'on parle.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Et ce travail de maturation, d'appropriation, avant de transmettre, doit être fait à mes yeux. C'est un corps qui parle.
Oui. Donc c'est pas tellement un problème de temps, c'est un problème d'incarnation, en fait. C'est est-ce que l'info est acquise fondamentalement et pas juste répétée par mimétisme, justement, juste j'ai entendu ça, donc je le répète.
Oui.
Ou là, effectivement, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, si j'ai entendu l'information, j'ai entendu le savoir-faire, je l'ai compris, je l'ai acquis, mon corps le comprend en entier. Et là, à ce moment-là, je peux montrer aussi l'exemple et repasser justement ce que moi j'ai construit dans ma connaissance.
Ouais.
Est-ce que apprendre en 2023, ça implique quelque chose de différent ? Au-delà de la technique digitale, est-ce que le monde de 2023, ça implique une différence dans l'apprentissage ?
Alors, j'en vois une qui est toujours sur la question des interactions. Alors, ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est vraiment le rapport au vivant. Mmh. C'est-à-dire que pendant l'Occident a été vraiment construit dans un rapport de division de la culture et de la nature. Et en fait, on a créé un concept qui est la nature, une partie du monde n'a pas cette catégorie de la nature. Et du coup, il y a une sensibilité du rapport aux autres vivants qui est extrêmement fort dans la relation. Comme nous, on a coupé et qu'on est dans une position très exploitation du vivant, on a une tendance à être colonisateur. Et on a tendance à être dans l'exploitation et dans des formes de prédation. Et pour moi, ça joue dans l'apprentissage. C'est que l'apprentissage à venir, très fort à mes yeux, c'est sur des liens de réciprocité, des liens de frugalité. Et c'est se poser d'autres questions dans l'enseignement. C'est par exemple, alors, c'est qu'est-ce que je vis ? Pas seulement ce que j'apprends.
Oui.
Qu'est-ce que je vis avec cette personne-là ? Qu'est-ce que je vis avec ce groupe-là ? Qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je donne ? C'est-à-dire que sur des questions de réciprocité, de choses, de se poser des questions d'ajustement, qu'est-ce qui est juste pour cette personne ? C'est pas la peine d'aller trop loin. Qu'est-ce que je fais pour que rien de vivant chez cette personne ne soit détruit ? Une transformation des représentations mentales qui se fait progressivement. Et des anthropologues, ethnologues comme Philippe Descola travaillent, ou des philosophes comme Morisot influencent beaucoup, commencent à influencer et infuser dans la société cette question. Si on dit que nous sommes la nature et qu'on arrête d'avoir ces catégories-là, ça change aussi beaucoup de choses dans les relations.
Oui,
et l'apprentissage... C'est le lieu de la relation. Et il y a une chose qu'on n'a pas évoquée d'un point de vue de la relation, c'est un lieu d'amour, en fait. Parce qu'en fait, on le sait. Je vais prendre d'autres matières, mais l'enseignement des mathématiques, il y a des gamins qui arrivent à se débloquer en maths parce qu'ils arrivent à aimer le prof qui les aime. Et ils sont débloqués
grâce à ça.
Grâce à ça.
Oui. Par l'affect, par le cœur, en fait.
Oui, par le cœur.
Effectivement. Est-ce que ce n'est pas un risque, un petit peu, ça, de passer par l'amour aussi ? On entend beaucoup parler de l'effet Pygmalion. Est-ce que de faire aimer sa matière en se faisant aimer soi, c'est pas un risque ?
Alors oui, si c'est de la séduction et que ça nourrit le narcissisme du prof,
c'est pas juste en fait.
C'est pas juste parce que l'amour, ce n'est pas ça. Enfin, l'amour n'est pas de la manipulation. L'amour n'est pas de la séduction dans le cadre de la pédagogie.
Est-ce que c'est une très vaste et en même temps une question très simple pour conclure ? C'est quoi un bon prof du coup ? Est-ce que ça existe ?
Alors, c'est le bon prof, en quelque sorte, il est circonstancié à la situation et à la personne qui est en face de lui et à l'objectif pédagogique. Et donc, on pourrait dire qu'il y a des bons profs, déjà. C'est au pluriel que ça se norme pas, parce qu'il y a des questions d'intelligence de la situation. Mais dans les caractéristiques, par exemple, les caractéristiques de bienveillance, d'être, de chercher et d'avoir une qualité de lien avec l'autre, c'est extrêmement précieux. Important. Et après, il y a la question aussi de la curiosité permanente de celui qui apprend et lui-même un apprenant. Donc, il apprend de ses élèves, à mes yeux, et il est tout le temps lui-même en formation. C'est-à-dire que pour moi, enseigner, c'est une curiosité permanente envers soi-même et envers ses domaines. Et ça fait partie.
C'est très mouvant, en fait. C'est toujours en mouvement.
C'est toujours
ça qui est très important, finalement, d'être toujours en mouvement et de ne pas se scléroser dans un acquis fixe ou une idée fixe.
Ouais. Et c'est aussi connaître ses limites et savoir aussi quand s'arrêter. Que c'est un métier difficile.
Oui.
Il peut y avoir besoin de changer, par exemple, retourner vers l'artisanat et être de nouveau dans l'artisanat, revenir vers l'enseignement pour ne pas s'épuiser.
Oui, parce que
renouveler. Et se renouveler dans vos métiers peut vouloir dire rechanger régulièrement de phase, en fait, par rapport à des cycles, et retoucher le terrain, revenir à l'enseignement, d'autant plus que les enseignants sont jeunes chez vous, et s'autoriser cette mouvance aussi.
Oui, mais ne pas s'enfermer dans une case et y rester, quitte à justement perdre le sens, perdre le cœur de cet enseignement.
Un enseignant aigri, c'est terrible pour le prof et pour les élèves. Et il faut savoir accepter de détecter que si on veut se voir tous les matins en se souriant dans le miroir et en se disant qu'on va passer une bonne journée, savoir s'arrêter à temps fait partie pour moi aussi du bon prof. Mmh. Est-ce que c'est un métier fantastique, oui, d'être formateur? C'est un métier extrêmement vivant. J'aime beaucoup un livre qui est écrit par une philosophe qui s'appelle Sophie Sacha, Chassat, qui a écrit un livre qui s'appelle L'élan vital, et elle travaille sur les biocides et les biophores, donc ce qui porte la vie et ce qui rend mort la vie. Mmh. Et je pense que les formateurs et les enseignants sont des porteurs de vie, donc doivent connaître chez eux ce qui est biocide et ce qui est biophore. Très pour être porteur de cet élan vital.
C'est une très belle conclusion, je trouve. Catherine, merci beaucoup de tout ce dialogue, de tout ce discours et de toutes ces informations. C'est très riche et c'est très enrichissant, comme toujours, de discuter avec toi. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.